EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Quand on est un enfant, on a besoin d'affection. Un enfant a besoin d'affection. Un enfant a besoin d'être entendu, il a besoin d'être entouré. Il a besoin de lui dire eh bien, qu'il a de la valeur, qu'on l'aime. Moi, personne ne m'aimait. Personne ne s'occupait de moi. Jamais une seule fois on m'avait dit qu'on m'aimait. Jamais une seule fois on m'avait dit que j'avais de la valeur, que j'étais précieux.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans À table avec Annabelle. Et lundi, nous avons eu Stéphane Cady, que vous avez peut-être découvert, et qui nous a encouragé à surmonter la peur. On a eu un beau temps de prière aussi. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons le Père. Et oui, le Père, on l'a fait un peu dans le désordre. On a d'abord pris le Fils et après le Père. Donc bonjour Christian.
Bonjour Annabelle.
On est contente, très heureuse de pouvoir vous recevoir aujourd'hui.
C'est un plaisir de vous rencontrer. Christian.
Ah, merci, de même.
Alors, je vais le dire, même si Christian ne va pas forcément apprécier le moment, mais Christian est vraiment un père de la foi en francophonie, un travail extraordinaire en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, et puis aujourd'hui en tant qu'aumônier. Et puis, au fur et à mesure que les années passent, eh bien, nous-mêmes, avec Jérémy, puis avec toute l'équipe qui connaissons Christian, on est bénis à chaque fois. Et c'est ultra rafraîchissant. On a eu une réunion, même de plusieurs réunions à l'église, Christian est en feu. Il est en feu. Stéphane était trop fatigué. Mais Christian était encore en forme pour prêcher la parole, prier pour les gens. Et c'était vraiment super.
Et il salue tout le monde dans la
c'est
salle
vrai,
de réunion.
Il reste après. Ouais, franchement, infatigable, un vrai modèle à tous les niveaux. Donc, merci Christian, c'est pour nous un honneur d'être avec vous. Et puis en plus, des témoignages, il en a à l'appel. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que même au fur et à mesure des années, il y a tout le temps des nouveaux témoignages. Et pas que des témoignages d'il y a longtemps, il y a plein de témoignages frais. J'espère que vous allez nous en raconter aujourd'hui.
Ah ben oui, oui.
Et Christian, on a intitulé cette émission de la souffrance à la compassion parce que vous avez eu un parcours qui est, je dirais atypique, mais pas tant que ça finalement, parce que beaucoup de gens ont eu un parcours de souffrance qui est pas forcément le même. Mais ce parcours dans la souffrance vous a amené aussi à pouvoir manifester la compassion dans votre vie. Alors bon, on s'est dit comme ça sonne pas super, mais on va commencer par la souffrance. On va commencer par le début un peu, comment vous avez grandi, et puis jusqu'au moment où finalement votre vie a changé en rencontrant Jésus.
Ouais. Ben voilà, j'ai pas eu le privilège, hein, parce que c'est un privilège d'avoir un beau foyer avec des parents aimants, avec être entouré là comme un enfant devrait l'être. Voilà, moi je suis né dans un foyer particulièrement difficile. Voilà, parce que mon père, c'était pas mon père, parce que ma mère, elle s'est mariée elle avait déjà deux enfants, donc elle s'est mariée avec un homme, et donc cet homme était particulièrement violent. C'est un homme qui consommait beaucoup d'alcool. Voilà, il buvait énormément, et comme il buvait tous les jours. Tous les jours, il était sous l'emprise de l'alcool, du vin. Alors donc, il était d'une méchanceté extrême. Et moi, comme j'étais donc le plus grand garçon dans la maison, eh bien, c'est toujours moi qu'il cherchait, toujours moi qu'il voulait frapper. Alors je me souviens quand j'étais très jeune, eh bien une fois il m'appelle dans la maison, et j'étais donc tout petit, tout,
tout peureux. Et je me souviens, il avait planté un couteau sur la table, un couteau. Et à côté, il a mis une corde. Et puis, il m'a invité donc à rentrer, à venir dans la maison. Et là, on m'a dit, écoute, ce soir, voilà, je vais te tuer. Voilà, tu vas choisir, je suis gentil avec toi, tu vas choisir, soit je te coupe la tête, ou soit je te pends. Alors, qu'est-ce que tu choisis ? Alors, moi, j'étais tout enfant, alors c'est... J'étais apeuré, j'avais peur, c'était vraiment particulièrement difficile pour moi, et bon, je savais pas trop quoi dire. Alors il s'est levé de derrière la table, il était assis derrière la table, il s'est levé, et puis en titubant, hein, parce qu'il avait bu, et il est venu vers moi, et il a pris un balai qui était dans le coin de la maison, et là il m'a mis un coup de balai sur la tête. Je me souviens encore, j'ai vu des étoiles, le noir... Et je suis tombé, assommé par le coup de balai. Et quand je me suis réveillé quelques instants après, alors j'ai senti quelque chose de chaud là, qui coulait là, dans ma tête. Et j'ai mis ma main, elle était rouge de sang et le parterre était rouge de sang. Et il m'avait éclaté le cuir chevelu avec le balai. Et je suis resté donc par terre pendant plusieurs heures là, dans la souffrance, avec des maux de tête épouvantables. Et tranquillement, quelques heures après, je me suis relevé de ce qui venait de m'arriver là. Alors, ça c'est une fois. Et une autre fois, je me souviens encore, alors il me met tout nu, j'étais complètement nu, et il me met des cordes au poignet, et il m'attache à une poutre dans une grange là, il m'attache à une poutre, et là avec un fouet, il me flagelle, il me flagelle, il me frappe, et j'avais mal, terriblement mal, et je me souviens que ça me brûlait le ventre, les jambes, le fouet, et j'avais comme des marques en dessous, comme un zèbre, vous savez, comme il y avait le sang qui était en dessous là. Et quand il a jugé que j'avais reçu assez de coups, donc il m'a détaché, il m'a mis au sol, et moi j'avais mal. Et là, j'étais allongé par terre et de toutes ses forces, il m'a shooté la tête comme on shoot dans un ballon de foot. Et plusieurs coups comme ça et il est parti. Voilà, ça c'était mon quotidien. Voilà, de son côté, j'étais battu, j'étais meurtri, j'étais mal aimé, c'était quelque chose de terrible pour moi. Alors du côté de ma mère, c'était aussi difficile parce que ma mère aussi elle buvait, elle consommait beaucoup d'alcool et donc elle n'avait pas le temps comme une maman de préparer les repas. Donc pour manger, il fallait que je me débrouille, j'allais dans les poubelles, dans les boîtes à ordures, et je me souviens encore, j'étais assis sur le bord du trottoir, je vidais les poubelles, et là donc je mangeais ce que je trouvais dans les poubelles. Et c'était donc mon quotidien, sans pieds nus dans la rue, j'étais vraiment comme une âme en peine. Alors il m'arrivait aussi, bien sûr, de rester des jours et des jours sans rentrer à la maison, parce que j'allais de droite, de gauche, je cherchais à manger, je cherchais un peu d'affection quelque part, et je trouvais pas, et c'était pour moi quelque chose de particulièrement douloureux, difficile. Quand je voyais les autres enfants, voilà, moi je me voyais comme ça, donc c'était pour moi quelque chose de très 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 douloureux. Alors ma mère, étant aussi une femme qui buvait, elle fréquentait beaucoup les bars. Alors j'allais avec elle dans les bars, et vous savez, hein, dans les bars avec une femme, donc il y avait des choses que les yeux d'un enfant n'auraient jamais dû voir, que les oreilles d'un enfant n'auraient jamais dû entendre. Et je me souviens que dans ces bars, les hommes avaient bu, ils étaient ivres, et quelquefois donc ils se battaient, et je me souviens encore, une fois d'une bagarre, ça m'a marqué profondément. Et je me souviens de deux hommes qui se battaient. Et à un moment donné, il y a un homme, il a mordu l'oreille de quelqu'un, de l'autre qui était avec lui. Et il, non seulement il l'a mordu, mais il y a coupé l'oreille avec ses dents. Voilà, et il a craché l'oreille.
Oh.
Voilà, et là, il y avait le sang, et ça m'a marqué. Hein. J'étais marqué, profondément marqué. Voilà, ça, c'était mon... C'était mon quotidien. Voilà, c'était tous les jours comme ça. Bon, à l'école, j'y allais de temps en temps. Voilà, vraiment de temps en temps. Et à l'école, c'est pareil. J'étais mis de côté parce que je valais pas la peine, parce que personne ne s'occupait de moi. Voilà, j'étais toujours mis de côté, toujours mis à l'écart. Et puis donc, là-dessus, il y a eu un jour une plainte qui a été formulée. Voilà, le voisinage a fait une plainte. Et puis aussi, une fois, j'étais à l'école et comme j'avais des bleus partout, j'avais des marques de partout. Donc, alors, les services sociaux ont été alertés et même la gendarmerie a été alertée. Mmh. Donc, il y a eu une enquête qui a été faite et très, très, très rapidement, eh bien, on a été retiré avec ma sœur qui était après moi. Donc, on a été retiré du foyer donc de nos parents. Voilà, on est parti là donc dans un orphelinat. Mmh. Alors donc à l'époque, les orphelinats c'était donc des endroits terrible, hein. C'est pas comme aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès là-dessus. Mais à l'époque, donc les orphelinats, c'était, je me souviens, c'était des dortoirs avec des grands lits. Hein. Il y avait des dizaines de lits là dans cet orphelinat. Et les enfants donc pleuraient, parce que beaucoup avaient été abandonnés par leurs parents, beaucoup avaient le même sort que nous, que moi là. Et donc, j'étais là dans cet orphelinat et j'avais une discipline de fer, une discipline dure, très 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 dure. Et moi, j'étais un garçon indiscipliné, hein, parce que j'avais vécu dans la rue pratiquement. Donc, pour moi, la discipline, eh bien non, je n'en voulais pas. Hors de question de me discipliner. Alors, comme j'étais indiscipliné, eh bien j'étais constamment puni, constamment dans le bureau de la directrice. Alors je me souviens, la directrice, au départ, elle me faisait la morale, mais vous savez, la morale, pour moi, ça rentrait dans une oreille et ça sortait par l'autre. Elle pouvait me dire tout ce qu'elle voulait, j'en avais rien à cirer de ce qu'elle me disait. Voilà,
vous aviez quel âge à peu près?
Oh, j'avais 9, 8, 9 ans, peut-être 10 ans, voilà, quelque chose comme ça, voilà. Hein. Et donc, puis comme la morale ne rentrait pas, alors elle allait plus loin après. Donc, je me souviens, cette dame-là, elle faisait du cheval, parce qu'elle avait toujours des bottes de cheval et une cravache sur son bureau. Alors, elle prenait la cravache, et puis elle me mettait des coups de cravache. Alors, je lui disais, écoute, tu sais, dans ma vie, j'ai tellement pris de coups, tu peux taper autant que tu veux, j'ai la peau qui est dure, tape autant que tu veux. Et je me moquais d'elle, je souriais. Alors elle me disait, Christian, tu sais, je vais te dire quelque chose, tu vas finir ta vie en prison. Mmh. Voilà, c'est... bon, voilà, peut-être qu'elle n'avait pas tort, parce que... voilà, mais voilà, donc, c'était ce qu'elle me disait. Alors, bon, toujours dans la punition. Et puis, je suis resté un temps dans cet orphelinat. Et quelque part, j'ai été mis de côté et amené chez une dame, voilà, qui recevait les enfants d'ADAS, voilà, des enfants de l'assistance publique. À l'époque, ça s'appelait l'assistance publique. Mm-hmm. Donc, alors, ces dames, famille d'accueil, son mari venait de décéder. Bon, c'était une femme qui était très gentille, hein, une femme qui s'occupait bien de moi. Elle me faisait bien à manger. Voilà, elle me soignait aussi dans mes vêtements. Moi, j'étais toujours bien habillé. Elle me forçait d'aller à l'école. Mais, moi, l'école, c'était pas trop mon truc. Et à l'école, pareil, j'étais constamment puni. Alors, comme j'étais mis de côté, j'étais toujours dans le fond de la classe. Et je me rappelle que l'instituteur me disait, bien, écoute, tu vas te rendre utile, hein, tu vas mettre des... À l'époque, ça se faisait, c'était des bûches de bois dans un poêle, donc je chauffais la classe, voilà, pour les autres. Je ne voulais rien savoir, ça ne m'intéressait pas, et j'étais constamment en train de me battre, parce que j'étais un bagarreur, j'avais la haine en moi, j'avais vraiment cette haine qui m'habitait, hein, depuis mon enfance. J'étais vraiment quelqu'un de méchant, de très très méchant, et bien sûr encore là, constamment puni, les tours de cour, je connaissais la cour par cœur, je faisais des tours de cour, le piqué, le coin, tout ce qu'il voulait, toutes les punitions possibles et inimaginables, eh bien je les avais, même le bonnet d'âne, hein, je me souviens, j'avais le bonnet d'âne, voilà, oui c'est vrai, j'étais un âne, et puis, bah, voilà, c'était pour eux c'était comme ça, hein. Et puis voilà, dans cette chez cette dame, bon, j'étais bien, mais vous savez ce qui me manquait. Ce qui me manquait, j'avais 12 ans, j'avais 13 ans. Voilà, ce qui me manquait, ben c'était quand même l'amour d'un père et d'une mère. Mmh. Alors cette dame, elle était très très gentille, je le répète, hein. Et le matin, donc elle venait et elle me faisait donc un bisou sur le front. Elle me disait bonjour Christian. Le soir, je me couchais. Elle venait, elle me faisait un bisou sur le front. Bonsoir, Christian. Voilà, et c'est toute l'affection que j'avais. Mmh. Voilà, c'était l'affection. Mais quand on est un enfant, on a besoin d'affection. Mmh. Un enfant a besoin d'affection. Un enfant a besoin d'être entendu. Il a besoin d'être entouré. Il a besoin de lui dire, eh bien, qu'il a de la valeur, qu'on l'aime. Moi, personne ne m'aimait. Personne ne s'occupait de moi. Jamais une seule fois on m'avait dit qu'on m'aimait. Mmh. Jamais une seule fois on m'avait dit que j'avais de la valeur, que j'étais précieux. Non, personne ne me disait. Alors je partais dans la forêt, et là, dans la forêt, pendant des heures et des heures, je pleurais toutes les larmes de mon corps, et j'ai mais pourquoi je suis né, mais pourquoi je suis venu au monde, pourquoi les autres ont des parents, pourquoi, eh bien, les parents s'occupent de moi, je suis tout seul, je suis un abandonné, personne ne s'intéresse à moi, je voudrais mourir, je ne peux plus de vivre, je voudrais mourir, et je pleurais toutes les larmes de mon corps, mais rien n'y faisait, c'est évident. Alors, le temps a passé, j'ai quitté cette dame, j'avais 14 ans, et j'ai été donc chez un employeur. Je me souviens encore, un menuisier, un patron menuisier, et là encore, chez lui, eh bien, j'étais encore maltraité, parce qu'il me dit, écoute, tu es là, tu bosses, et tu te tais. Mmh. Voilà, tu es de l'assistance publique, tu la fermes. Ah, je dis, ah bon, mais moi, c'est fini maintenant, c'est terminé. Maintenant, moi, je m'en vais, et je suis parti, je me suis échappé de chez cet homme, et je me suis retrouvé dans la rue. J'avais 14 ans, et quand on a 14 ans, on est dans la rue, eh bien, j'ai commencé à fréquenter des gars qui avaient 20 ans, 25 ans, 30 ans, et qui, eux, déjà, avaient fait de la prison. Ah. Voilà, beaucoup de prison. Et je me suis joint à eux, et quand on a une telle fréquentation, eh bien, automatiquement, eh bien, moi aussi, je me suis trouvé très jeune, voilà, en maison d'arrêt. Alors, j'ai connu la maison d'arrêt. Et puis, je suis sorti de la maison d'arrêt. Et puis, on m'a placé à l'époque, ça s'appelait des maisons de correction. Mmh. Voilà, donc j'étais en maison de correction. Mais là encore, eh bien, je m'évadais. Je m'échappais. À chaque fois, je m'échappais. À chaque fois, je m'évadais. On pouvait me faire tout ce que l'on voulait, tout ce que l'on voudrait. Je m'échappais. Parce que là encore, dans cette maison de correction, là, je me souviens encore qu'on travaillait dans les champs. Alors, on ramassait des pommes de terre là, dans les champs. Et je me souviens qu'il y avait un gars, quand je suis arrivé, il m'a aussi frappé. Et puis, je me suis dit, bon, toi, t'inquiète pas, je vais me venger. Et je me souviens qu'on ramassait des pommes de terre. Alors, lui, il était devant moi. On était l'un derrière l'autre, comme ça. On travaillait dans le champ. Et à un moment donné, eh bien, il était devant moi. Je me rappelle, il avait un gros derrière, comme ça. J'ai pris la fourche et j'ai mis un coup de fourche dans le derrière. Hein. Et là encore, bien sûr, j'ai été puni. J'avais la haine. Mmh. Voilà, j'avais la haine. J'étais un haineux. Et le temps a passé, le temps a passé. Bon, c'était ma vie, elle était comme ça. Et puis, un jour, j'étais dans un groupe de jeunes. Dans ce groupe de jeunes, voilà, il y avait une fille qui était là. Alors, je la regardais, je lui ai dit, écoute, tu sais, tu es vraiment une... Tu étais belle. Je veux me marier avec toi. Est-ce que tu le veux?
Oui.
Alors elle m'a dit oui.
Hein? Alors,
mais elle est toujours aussi belle que c'est comme ma femme aujourd'hui.
Oh.
Hein. Voilà. On est mariés depuis maintenant 56 ans.
Oui.
Voilà. Donc c'est toujours ma femme. Alors on s'est mariés rapidement tous les deux. Alors c'était pas un mariage à l'époque qui était vraiment heureux, hein, parce que moi, je continuais à ma propre vie. Elle était et elle est toujours très, très, très speed. Voilà. Et bon, on avait vraiment des affrontements tous les deux. Et c'était quand même quelque chose de particulier. Et puis, à un moment donné, eh bien, voilà, le temps a passé. Et j'ai rencontré des tziganes.
Mmh.
Et les tziganes, alors, ils m'ont témoigné de quelqu'un qui pouvait m'aimer.
Mmh.
Quelqu'un qui avait donné sa vie pour moi. Alors j'ai dit, oui, mais qui c'est ce quelqu'un? Alors ils m'ont dit, c'est Jésus-Christ. J'ai dit, le bon Dieu? Ah non, je veux pas du bon Dieu, moi. Ah non, tout, mais pas ça. Avec la vie que j'ai eue, avec ce que j'ai entendu, ce que toutes les personnes que j'ai côtoyées, la misère que j'ai vue, me parler de Dieu, mais c'est pas possible, il n'y a pas de Dieu. Non, c'est impossible. Je ne veux pas de Dieu. Et bon, ils étaient très gentils. Alors ils m'ont dit, écoute, nous on va prier, puis on va jeûner, je me souviens, pour toi. Et puis ils m'ont donné la Bible. Et puis je suis rentré chez moi. Nos chemins sont séparés. Et donc le temps passant, plusieurs mois passant, c'est un dimanche midi, ça sonne chez moi, ça frappe à la porte. Et j'ouvre la porte, et sur le palier qui je vois, ce tzigane. Alors il m'a dit, écoute, quand on s'est vu, il y a quelques mois en arrière, je t'ai donné une adresse pour que tu ailles écouter l'évangile, mais t'as pas été. Et non, j'ai pas été. Il m'a dit, mais écoute, tu sais, ce matin, j'étais au culte, c'est dimanche matin, j'étais au culte, je sors, et j'ai demandé au pasteur s'il avait vu un gars comme ça, là, venir. Alors le pasteur m'a dit, non, j'ai pas vu ça. Et... Il dit, je me suis mis au volant de ma voiture. Et puis il dit, j'ai prié. Mm. À savoir que ce tzigane, il savait ni lire, ni écrire. Il connaissait rien de moi. Il n'avait pas ni mon nom, ni mon adresse. Il s'est mis au volant de la voiture. Et il a dit, Seigneur, faut que je retrouve ce gars.
Mm.
Faut que je retrouve encore une dernière fois. Parce que je sens qu'il faut que je parle de toi.
Mm.
Et encore une dernière fois, conduis-moi chez lui. Et à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Hein. Mais Dieu a un GPS extraordinaire, le GPS divin. Et ce gars, il s'est retrouvé chez moi et m'a dit, écoute, c'est la dernière fois maintenant que je te dis, que je te parle. Écoute, tu sais, cet après-midi, il y a une conférence, une réunion à 15h. Tu es libre d'aller ou pas y aller. Fais comme tu veux. Et il est parti. Et ma femme m'a dit, écoute, on devrait y aller. Alors je dis, non, je n'irai pas. Et ma femme me prenait avec des pincettes, parce qu'à l'époque, quand je me mettais en colère, je cassais tout ce que je trouvais, je le cassais.
Mm.
Et mes colères duraient des jours et des jours et des jours. Donc elle était très timide pour me mettre en colère, elle me prenait avec des précautions. Mais puis au bout d'un moment donné, je dis oui, d'accord, mais écoute, on va aller. Eh bien écoute, on va aller à cette réunion. Je suis arrivé, c'était en retard. Voilà, j'ai vu le pasteur et je suis rapidement parti et je suis retourné le jeudi d'après. Et là, le pasteur prêchait l'évangile et j'étais touché par le message.
Mm-hmm.
Il parlait d'un Christ qui est mort sur une croix et de deux brigands mourant à côté de lui. Et il disait, le Seigneur Jésus aime les brigands. Mm. Il aime les pécheurs. Il les aime. J'ai touché par son message. Et à la fin de la réunion, il se met à la porte pour saluer les gens. Il me dit, vous êtes nouveau. Ça se voyait que j'étais nouveau, hein. Hein, et alors
peut-être
il m'a.
Vous pouvez dire pourquoi ça se voyait aussi.
Oui, parce que j'avais des tatouages de partout, hein. Et puis j'avais une sale tête quand même, hein, franchement. Vraiment une sale tête, hein. J'avais une tête de. Mauvaise tête, quoi. Tête de brigand, quoi. Et donc, il m'a demandé l'adresse, il est venu chez moi. Et puis, donc, on s'est mis à table comme ça, et puis on a commencé à parler. Et puis, je parlais. Puis, à un moment donné, je le vois, il est blanc, là, comme cette table. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est blanchi? Il m'a dit, ah, je suis effaré. Ça fait tant d'années que je suis dans le service pastoral. Et il m'a dit, jamais j'ai entendu quelqu'un parler avec un vocabulaire aussi pourri et ordurier que vous. Il m'a dit, tout ce qui sort de votre bouche, c'est pourri, pourri, archi pourri. Il n'y a pas un mot qui est bien, qui sort de votre bouche. Oh, il m'a dit, je vais prier Dieu pour qu'il vous donne un vocabulaire plus académique. Et alors, il a prié pour moi. Et au moment où il priait pour moi, à ce moment-là, je vous assure, quelque chose s'est passé. Et là, j'ai commencé à dire, Jésus, moi je crois pas en toi. Le Tzigane, il m'a dit que tu existais. Le Tzigane, il m'a dit que tu es vivant. Le Tzigane, il m'a dit que tu pouvais changer ma vie. Et lui, là maintenant, il me dit ça également. Mais si c'est vrai que tu es vivant, alors... fais quelque chose pour moi. J'ai parlé à Jésus avec mon vocabulaire qui n'était pas académique. Mais il a entendu.
Yes.
Il a entendu. Et à ce moment-là, j'ai senti une présence, quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux, quelque chose qui, comme des vagues d'amour que je n'avais jamais connues, comme quelque chose... ah, qui venait d'autre part et qui commençait à m'inonder, à venir en moi et me prendre, me plonger. Et moi, depuis des années, quand j'étais jeune, adolescent, je pleurais. Quand j'étais enfant, je pleurais. Et là, maintenant, je dis, mais c'est fini, plus jamais je pleurerai. Plus aucune larme ne sortira de mes yeux. C'est fini, fini. Et là, maintenant, tant d'années après, je commence à pleurer et je dis, pardon. Parce que j'ai fait tellement de mal. J'ai fait du mal autour de moi. J'ai fait du mal à mon épouse. J'ai fait du mal de partout. J'ai fait le mal. Pardonne-moi. Oh, pardon, pardon, pardon. Et le pasteur est parti. Et ce jour-là, je suis né de nouveau. Je suis devenu une nouvelle créature. Entièrement. Jésus, il est venu chez moi. Il est venu là. Il est venu, Jésus est venu chez moi. Il a changé ma vie. Il m'a transformé. Il a bouleversé ma vie jusqu'à ce jour. Il ne m'a jamais déçu. Ah, béni soit le nom du Seigneur. Oh, quel immense. Comme j'aime Jésus. Ah, il est merveilleux. Il est merveilleux.
Oui, il est vraiment merveilleux.
Ah oui, oui.
Est-ce qu'après cette expérience, votre vie a changé du jour au lendemain?
Ah oui. Oui, ça, du jour au lendemain, ça a changé. Mais il y a eu des hauts, des bas. Et quelquefois plus de bas que de hauts. Hein? Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, ça n'a pas été facile pendant des mois encore après. Hein, enfin, je voulais tout quitter. Et puis j'avais un pasteur qui était, comme je dis souvent, il avait une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Et il savait me prendre. Il savait s'y faire. Et voilà, parce qu'il était inspiré. Il avait l'onction de Dieu sur sa vie. Et donc, il m'a dit un jour, écoute, Christian, voilà, il y a un appel sur ta vie. Moi aussi, parce que dès que je me suis donné à Jésus, voilà, partout je répandais l'évangile, la bonne nouvelle. Oh, je n'avais pas fait de la théologie, mais j'avais l'expérience. Alors je partageais ce que j'avais vécu. Voilà, un Jésus qui change et qui transforme les vies. Ça, c'était glorieux. Et il m'a dit, il y a un appel sur ta vie. Alors tu vas aller dans une école biblique. Et c'est comme ça, donc
voilà, que les choses se sont passées pour moi.
Là, hein. On pourrait faire toute une autre émission sur l'école, le passage à l'école biblique, qui a été formateur, notamment pour le caractère.
Ouais.
Et puis après, vous avez été évangéliste, vous avez pu aller un peu partout en France, et beaucoup de gens sont venus au Seigneur à travers vos réunions.
Oui.
Vous avez été pasteur aussi,
ouais.
Un petit peu partout.
Ouais.
Et là, je fais un grand bond dans le temps. Et au moment où vous auriez pu dire, ben, je vais me reposer, après toutes ces années de bons et loyaux services, eh bien, vous avez, pas repris, parce que vous n'avez jamais arrêté, mais vous êtes devenu aumônier de prison.
Mmh.
Alors, je ne sais pas quelle est la vision qu'on peut avoir de l'aumônier de prison, mais en tout cas, vous, pour ce que vous faites, c'est que vous allez tous les jours,
pratiquement tous les jours.
Toute la journée en prison.
Ouais.
Voilà, ouais. Écoutez des témoignages, tous plus horribles les uns que les autres, mais de ce parcours de souffrance et de ce que vous avez vécu et de cette rencontre extraordinaire que vous avez fait avec Jésus, bah, vous continuez de propager l'amour de Dieu à ces prisonniers qui sont, faut le dire, quand même oubliés. Et puis, tout le monde n'a pas une compassion forcément pour les gens qui sont en prison parce qu'ils ont fait des choses mal, ils ont fait du tort. C'est pas des gens vers qui on a forcément envie d'aller. Mais pourtant, vous êtes en prison toute la journée et vous les aimez. Et vous savez que Dieu les aime.
Oui. Alors, dans mon parcours pastoral, donc après l'école biblique, donc je suis rentré dans le service de Dieu, hein, comme ça se doit. Mais quelque part, eh bien, j'ai toujours, même étant pasteur d'une église, j'avais toujours une journée par semaine
réservée.
Une journée par semaine pour aller visiter un détenu. Voilà, parce que quelqu'un que je connaissais ou on m'informait que quelqu'un était détenu. Donc, je faisais la demande à l'époque, je faisais une demande et j'allais le visiter. Je gardais toujours une journée par semaine à la pour visiter.
Mm-hmm.
Et plus l'église où j'étais pasteur. J'étais pasteur donc de l'église. Et puis, donc, à un moment donné, une porte s'est ouverte pour moi, voilà, pour que j'aille plus loin dans le service auprès des détenus. J'ai toujours eu dans mon cœur de la compassion. Je suis un évangéliste. Hein, je suis un évangéliste et j'aime les perdus, j'aime les âmes, j'aime ceux qui sont dans la boue du péché, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui peut les sauver. Voilà, les arracher, parce que moi-même j'ai été arraché à la boue du péché. Et donc j'ai eu cette opportunité, voilà, donc de rentrer. Et comme mon fils est rentré donc à plein temps dans le ministère, donc ça a pu me libérer un petit peu pour lui laisser la place pour que moi je puisse me donner plus entier donc dans la prison, dans l'aumônerie des prisons.
Oui. Bah là, pour le coup, c'était vraiment plus entier.
Oui, voilà. Donc oui, et bien sûr qu'il y a des vies cabossées, des vies cassées. Hein. Le monde de la prison, c'est un. On juge facilement. Hein. On dit voilà, c'est le Club Med. Mais moi, quand je visite les détenus et particulièrement tous ceux qui arrivent, j'essaye de les voir. Moi, je suis pas là pour leur demander voilà quel est le motif de votre incarcération. Voilà pourquoi vous êtes là. Alors, quelquefois, je le sais parce que les journaux en ont parlé, la télévision aussi en a parlé, donc je sais. Mais s'ils me disent pas pourquoi, ça m'intéresse pas pourquoi ils sont là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur cœur, c'est leur âme.
Mm-hmm.
Je veux les aimer et leur apporter ce réconfort et puis leur apporter la bonne nouvelle d'un Dieu qui les aime.
Mm.
Voilà, parce que Dieu aime tous les hommes. Voilà, ça, c'est une...
Et est-ce qu'ils veulent, enfin, comment ils le reçoivent, voilà.
Ils sont ouverts, en fait.
Parce qu'on s'imagine, c'est des personnes dures, et puis un peu comme votre première action, non, moi, je veux pas de Dieu, etc. Alors, comment est-ce que vous êtes reçu dans les prisons, par les prisonniers?
Alors, je suis toujours bien reçu. Je suis toujours très, très bien reçu. J'ai jamais eu un refus, j'ai jamais eu une...
Jamais un refus.
Jamais de refus, jamais.
Ah bon?
Jamais de refus. J'ai toujours eu un accueil favorable.
un accueil bienveillant même, hein, et même ceux qui ne voulaient pas parler de Dieu avec moi, voilà, je n'aborde pas forcément tout de suite les choses sur Dieu. Hein. D'abord, j'ai beaucoup d'écoute. Mm-hmm. Voilà, j'ai beaucoup d'écoute. Je me souviens un jour, j'ai rencontré quelqu'un, je l'écoutais pendant deux heures, sans dire un mot, je l'écoutais. J'écoutais ce qu'il avait à me dire. Puis, au bout de deux heures, alors que je regarde la montre, deux heures que je suis avec toi, alors je me lève pour partir, il m'a dit, qu'est-ce que vous m'avez fait du bien. J'ai pas dit un mot. Voilà, c'est d'abord l'écoute, et puis aussi le fait de les aimer. Mm-hmm. L'amour. Mm. L'amour, ça se communique. Mm. L'amour, ils ressentent quelqu'un qui aime. Voilà. Une onction d'amour. Mm-hmm. Et ça se ressent. Ouais. Même ceux qui ne veulent pas parler de Dieu, voilà, ils réalisent quand même que devant eux, il y a quelqu'un qui est particulier, voilà, et qui les aime.
Et est-ce qu'il y a des prisonniers qui ont déjà rencontré Jésus depuis que vous êtes à la prison?
Ah oui, c'est sûr.
Ouais. C'est sûr.
Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Hein. Oui, il y a des prisonniers qui ont fait des expériences. Hein. Beaucoup, hein, ont rencontré Jésus et après qui ont été libérés et que je rencontre, hein, dans les différentes églises où je vais, hein. Ouais, voilà, je les rencontre et ils sont avec Jésus, ils sont engagés dans les eaux du baptême, hein, voilà, ils ont accepté Jésus, ils sont fait baptisés par immersion et puis quelque part, eh bien, baptisés dans le Saint-Esprit, puis ils ont retrouvé leur famille, un travail, mm-hmm. Ils sont dans les églises. Hein,
voilà. Oh, ça, c'est génial.
Avec une vie nouvelle, hein, voilà, c'est normal. Hein, quand dans un endroit, il y a Jésus, pas autrement que des vies transformées. Hein, voilà.
Yes.
J'ai vu même, hein, un détenu qui était baptisé dans le Saint-Esprit. Hein. Il ne savait pas ce que c'était que le baptême dans le Saint-Esprit, mais pourtant, il était baptisé dans le Saint-Esprit. Voilà, et heureux de témoigner autour, hein, des détenus. Et moi, ça me fortifie, ça.
Mm-hmm. Oh, bah oui. Ah,
ça, c'est,
mais oui.
Ça, c'est de la...
Vous savez,
c'est extraordinaire. Voilà, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu, vraiment. Une chose que j'aime trop, quand je vous entends, depuis votre histoire et par rapport aux détenus aussi, quand vous parlez, c'est qu'il n'y a jamais personne qui est trop sale pour Dieu. Il n'y a personne qui a tellement péché, qui est tellement allé trop loin dans le péché au point où Dieu ne le regarderait plus. Et on sait que plusieurs personnes aujourd'hui parfois se trouvent sales, ne se trouvent pas dignes de répondre à cet appel au salut. Pourtant, Dieu, il a vraiment cet amour qui est disponible pour chacun de nous. Et si on se sent trop sale pour Dieu, en fait, c'est un mensonge. C'est vraiment, il faut lâcher prise, en fait, pour juste recevoir cet amour de Dieu et dire « Oui, je veux venir près de toi. J'accepte cet amour-là. » Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que vous-même, vous êtes passé par là. Et aujourd'hui, avec les détenus qu'on entend, l'histoire que vous racontez, il y en a plein aussi qui passent par là. Dieu est plus intéressé par la personne en face plutôt que par le passé ou même les crimes commis par cette personne.
Oui, très juste, hein, très juste. Hein. Mm-hmm. Beaucoup, hein, beaucoup me le disent, hein, je me sens trop sale, je me sens souillé, je n'ai pas droit, j'ai fait tellement de mal aussi. Voilà, j'entends ça aussi, mais bien sûr que le Seigneur pardonne. Hein. Mm-hmm. Il est mort sur la croix, voilà, pour... tous les hommes, pour tous les hommes, et quel que soit, il n'y a pas de péché trop sale, trop souillé, trop dur, voilà. Et le sang de Jésus qui a coulé purifie de tout péché.
Mm-hmm.
Voilà, ça c'est une certitude. Hein.
Mm-hmm. Et aujourd'hui, vous avez même une église dans la prison.
Ah oui, on a le samedi matin, on a un culte, culte le samedi matin, oui.
Et Christian nous a repris à l'église, il nous a dit, vous savez que les prisonniers disent plus Amen que vous.
Avec un temps de chant, de louange, un moment de prédication, puis après donc de prière, voilà, un moment de prière, Et quand les détenus, quelquefois, ils retournent dans leur cellule, ils retournent en chantant des cantiques. Et dans leur cellule, ils continuent à chanter des cantiques. Voilà, qu'ils ont appris au culte. Et puis, ils viennent avec la Bible, avec le Nouveau Testament. C'est ce que je leur donne. Hein. Puis je leur donne aussi ton livre, hein, sur les proverbes.
Ah, oh, waouh.
L'amour injuste aussi, voilà. Je leur donne aussi ça, parce qu'ils aiment. Hein. C'est bien, c'est bon. Chaque jour, un proverbe.
Ah, waouh.
De bonnes choses dessus. Hein. Ah, il y a une grande ouverture, hein, c'est sûr. Hein.
Mais en tout cas, il y a une grande ouverture, mais j'ai l'impression que quand on parle des prisons, c'est qu'il n'y a pas forcément énormément d'ouvriers. Et bon, Christian a fait plus ou moins un appel au salut. Et je crois que si vous n'aviez pas encore rencontré Jésus, eh bien, vous avez saisi aujourd'hui que vous pouviez le faire, peu importe où vous en étiez dans votre foi, vous pouvez l'invoquer. Et comme il est venu rencontrer Christian, alors qu'il n'avait pas le vocabulaire académique. Mais je veux faire aussi lancer un appel. Si vous ressentez un appel particulier pour l'aumônerie et que c'est quelque chose avec lequel vous luttez parce que vous dites, on n'en parle pas souvent, c'est pas quelque chose qui est très populaire, aller dans les prisons, est-ce que je vais avoir la grâce, etc., qu'il faut. Mais quand Dieu appelle, il donne aussi la grâce, il donne l'onction et il qualifie. Et je crois que Dieu cherche des ouvriers dans ce terrain. Alors, Christian est un excellent modèle, mais je crois que Dieu cherche aussi d'autres personnes qui vont faire la même œuvre, qui vont faire le même travail avec ce même cœur dans d'autres prisons. Et que plus il y aura d'ouvriers dans ce terrain-là, plus il y aura d'efforts et de choses qui seront mises en place, plus il y aura d'âmes de sauver. Alors, je vous encourage à répondre à cet appel, à ne pas fuir l'appel. Et je pense, je parle à une personne, vous avez déjà reçu comme une confirmation, mais peut-être vous aviez trouvé que l'aumônerie, c'était pas si glamour que ça. Eh bien, c'est Dieu qui vous avait parlé. Donc, je vous encourage à dire oui et puis aller vous renseigner auprès de votre église, auprès de votre fédération aussi. Comment est-ce que je peux le faire? C'est quoi les étapes pour pouvoir le faire? Et puis, vous pouvez contacter peut-être aussi Christian. Il a un compte Instagram, Christian. Christian Caddy. Donc, si vous êtes intéressé pour répondre à cet appel spécifique que Dieu a mis dans votre cœur, vous pouvez contacter l'église de la Riviera ou directement Christian Caddy. Merci beaucoup, Christian.
Merci. Ah, merci.
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 Merci. Merci.
C'est bon, ça s'est bien passé. Et on se dit à vendredi. Bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.